Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque avec Jean Botvinnik pour les Juifs, Jean-Pierre Dubreuil et Alain Genèse pour les personnes en recherche, Catherine Bianchi pour les protestants, Chantal Matelet pour les chrétiens catholiques. Et nous évoquions dans notre dernière émission les usages alimentaires qui finalement sont importants dans nos différentes religions. Nous avons évoqué les usages des musulmans, les usages juifs, mais nous n'avions pas abordé les usages communs peut-être aux religions chrétiennes, protestants et catholiques, puisque finalement la scène ou bien l'Eucharistie pour les catholiques, c'est le souvenir d'un repas. Donc il y a quand même une relation avec les usages alimentaires, et d'autre part, il y a aussi des périodes de jeûne, comme on a pu l'observer chez les juifs et au moment du ramadan, notamment chez les musulmans, bien sûr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un certain nombre d'informations, puisque en ce moment, on réactive dans les sphères politiques le souvenir de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, et contre les séparatismes, c'est-à-dire le fait que certains se réfèrent à un certain nombre d'usages religieux ou de conceptions religieuses pour se couper de la communauté des citoyens. Alors il y a l'aspect religieux, mais peut-être d'autres aspects, mais en tout cas, les sphères gouvernementales veulent que nous revisitions la laïcité. Alors je crois que vous aviez des choses à nous dire justement par rapport à ces perspectives, monsieur Botvinnik.
Oui, parce que très récemment j'ai été sollicité à participer pour la communauté juive à une réunion d'information sur un futur rallye de la laïcité qui doit se passer dans Dreux, aux environs du 9 décembre 2020, qui est la date anniversaire du vote de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est organisé par la Ligue de l'enseignement de Ré-Loire et le Cercle laïque. Les représentants des autres religions ont été contactés. Deux imams, l'église Saint-Pierre, ils n'étaient pas là. Les protestants, eux, n'ont pas été sollicités du tout, comme l'année dernière à Chartres. Alors sur le programme déjà établi, il s'agit d'un parcours dit citoyen dans les lieux républicains, culturels et religieux, avec présentation et lien avec la laïcité pour chaque site visité, ce qui donnera évidemment beaucoup d'informations aux gens qui vont participer à cette marche, si tant est qu'elle ait lieu, puisqu'il est prévu une centaine de personnes et que le Covid sera peut-être encore toujours là, présent le 9 décembre. Et par ailleurs, j'ai été également sollicité quelques jours plus tard par un cadre de la mairie qui m'a informé du désir de la nouvelle municipalité de demander l'avis des religions sur nos problèmes de société, c'est-à-dire l'enseignement sur la drogue, sur le climat. Et évidemment, nous sommes tous intéressés. Et j'ai signalé que notre petit groupe de Mosaïque 28 participait depuis plus de 10 ans, pratiquement maintenant, à l'information des citoyens sur ce que peut apporter nos religions dans notre vie quotidienne.
Eh bien voilà, donc une information. Alors, eh bien chers auditeurs, si vous entendez parler dans vos communautés, groupes religieux respectifs de cette question, eh bien, c'est l'occasion de réfléchir à la chance que représente la laïcité pour que chacun puisse s'exprimer, vivre de sa religion. Catherine, vous vouliez dire quelque chose, justement.
Oui, simplement, je crois que ce projet de révision de la loi de 1905, comme dit le président de séparatisme, il ne faut pas oublier que la loi de 1905 a obligé chaque paroisse, chaque église à se constituer en association cultuelle. C'est ce que fait immédiatement les protestants, puisque par exemple la paroisse de Dreux-Marsosseux, la loi est du 9 décembre 1905, et la paroisse de Dreux-Marsosseux a été constituée le 9 mars 1906. Mais Il est clair que l'Église catholique a un peu tardé. Il y a eu plusieurs révisions de la loi, plusieurs aménagements, je dirais. Et je crois que c'est en 1907 ou en 1908 seulement qu'elle a été appliquée, mais non pas en association locale, mais sous forme de diocèse. Et le problème, c'est qu'il n'y avait que ces trois confessions qui existaient à l'époque, et que depuis, il y a les musulmans qui sont arrivés, et ces musulmans se sont constitués en association, mais association 1901 culturelle. Peut-être par ignorance, mais quand même pour exercer leur culte. Et c'est là qu'il y a une anomalie, que le gouvernement souhaite rétablir que ces associations deviennent sous la loi 1905 ou la révision de cette loi. Alors évidemment, il ne faut pas viser tous les musulmans dans ce secteur, mais ceux qui enseignent un islam assez dur et intégriste, puisque par exemple, ici à Mars-en-Seux, nous avions une école protestante qui accueillait aussi bien des enfants de confession catholique romaine, comme on disait à l'époque, mais accueillait d'enfants de tout milieu. Et la loi ordonnant la construction d'écoles a supprimé l'école protestante et tous les enfants sont allés à l'école communale. Alors qu'actuellement, il y existe des écoles un peu cachées où l'on enseigne un islam peut-être un petit peu durci, si je puis dire. Donc c'est là que ça pose un problème pour recadrer un peu tous ces gens qui ne sont pas dans la légalité
républicaine.
Voilà.
Jean-Pierre et Alain, vous avez peut-être des choses à nous dire, parce que face à
cette... Oh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Non, c'est très simple. Hein. Il y a la loi républicaine, il y a les religions. Les adeptes des religions ont un certain nombre de règles à suivre. Bon, le problème qui se pose, c'est de savoir si la loi de la République doit l'emporter sur les lois des différentes religions. Alors oui, moi je pense qu'effectivement, pour que la concorde puisse régner, il faut que tous les citoyens, qu'ils soient croyants, incroyants, agnostiques, chrétiens, catholiques, protestants, musulmans, juifs, eh bien, se soumettent à un certain nombre de règles qui permettent qu'il n'y ait pas d'interférence directe d'un pouvoir religieux dans la vie du pays. Ce qui n'exclut pas, évidemment, des dialogues entre le politique et le religieux.
Moi, je crois que de toute façon, c'est une chance d'être dans un État laïque, parce que ça permet justement cette liberté religieuse. Enfin, je me tourne vers M. Botvinnik, parce que je pense que c'est aussi le point de vue juif.
En France, les juifs ont reçu la liberté le dernier jour de la Constituante. Et la religion juive a été organisée un petit peu plus tard par Napoléon, qui a créé l'encadrement de la religion juive, qui s'appelle le consistoire, avec l'obligation d'avoir des rabbins qui sont enseignés en français. Et le grand principe de la religion juive pour accepter sans obstacle la loi de la République, le grand principe qui date des années 200 ou 300 de notre ère, tout au moins qui est écrit, c'est « la loi du pays sera ta loi ». Et donc, à partir de ce commandement talmudique, nous devons obéir absolument à la loi
républicaine,
mais à la loi du pays. La loi du pays. Alors, si on est en République, ça serait la loi républicaine. Alors, il y a quelques non-transgressions à observer. Si la loi me dit d'aller tuer mon voisin, je ne dois pas obéir. Si la loi me dit tu ne peux plus manger cachère, alors ça pose des problèmes. Alors, la recommandation pour régler ces problèmes, ce n'est pas d'aller manifester avec des pancartes, mais de se rendre compte que s'il n'y a pas moyen dans l'état actuel des choses, eh ben, il faut s'en aller.
D'accord.
Il faut partir.
Du pays.
Il faut partir du pays. Alors ça pose des gros problèmes par rapport, par exemple, aux juifs qui mangent kasher, c'est-à-dire avec un abattage selon le rite. Et quand des pays interdisent l'abattage rituel, par exemple, eh bien, il n'y a plus moyen de trouver de la viande kasher, selon le rite. Alors, dans le monde actuel, il y a des livraisons de viande kasher qui sont faites, mais si effectivement on doit aller plus dans les interdits, les gens vont s'en aller, et c'est ce qui commence à se passer en Belgique, et je crois en Suède, où ça a été interdit aussi. Donc partir parce qu'on ne peut pas observer correctement sa religion, c'est un appauvrissement aussi pour le pays dans lequel on vit.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas de problème sur la laïcité particulière, même si avec effectivement l'évolution des lois sur l'enseignement, il y a eu des écoles juives qui se créent, mais ces écoles juives sont sous contrat de l'État, sont visitées par l'État, et donc sont tout à fait dans le cadre républicain.
C'est vrai aussi pour les écoles catholiques, elles sont sous contrat souvent.
Absolument. Oui, non seulement dans cette révision de la loi, il y a le problème du financement des lieux de culte, puisque la loi 1905 a fait que, par exemple, pour les protestants, tous les temples construits avec les deniers, essentiellement des paroissiens, et puis bien sûr peut-être de la commune, ces biens sont redevenus à l'État. Par contre, tous les temples qui ont été construits depuis cette loi de 1905 sont propriété de l'Église, mais avec aucun denier de l'État. Alors qu'actuellement, ce qui gêne un peu le gouvernement, c'est que les musulmans sont en majorité en association culturelle 1901 et bénéficient de subventions de l'État. Alors, je ne dis pas que la subvention est suffisante pour construire une mosquée ou autre, mais là, il y a une anomalie par rapport aux autres confessions.
C'est un vrai problème, hein, parce que c'est vrai que ça peut choquer que l'État aide, mais d'un autre côté, si la construction de ces lieux de culte vient de l'étranger, on peut avoir des inquiétudes sur les influences qui ne sont pas des influences purement religieuses, mais qui prennent plus ou moins un caractère politique. Hein.
Non, c'est vrai, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur les questions. Parce que, de fait, le fait de manger kasher, interdit dans certains pays par un abattage réglementaire, fait que les populations juives doivent quitter ce pays, ou ces pays. Ou bien faire venir de la viande, enfin bon, de façon très lointaine, voire très coûteuse. Alors, on voit là que la liberté religieuse, à cause de certaines obligations, est en opposition avec les lois de la République.
Je dirais la chose suivante par rapport à la loi de la République. C'est que la loi de la République, elle est changeante. Nos religions ne sont pas changeantes. La loi de la République, elle est changeante. Les régimes passent. Heureusement, trépassent. Comme le régime de Vichy qui a changé les lois.
Oui.
Donc il faut aussi garder ce souvenir historique que la loi de la République n'est finalement pas gravée dans le marbre. La seule chose qui soit vraiment gravée dans le marbre, c'est la Déclaration des droits de l'homme.
Je crois en effet que c'est le fondement d'une laïcité respectueuse des uns et des autres, puisque nul ne peut être contraint et toutes les opinions se valent et la limite de la liberté, c'est la liberté de l'autre. Donc le droit de l'homme provoque la
liberté et le respect de
c'est notre devise, liberté, égalité.
Liberté, égalité, fraternité, elle est bonne, notre devise républicaine. Chantal, je voudrais que tu reviennes un peu sur les questions de repas et de dans le monde catholique.
Disons que chez les catholiques, le repas, c'est quand même quelque chose d'important qui fait célébration de tous les dimanches. Le dernier repas du Christ avec ses disciples avant de mourir. Et le dimanche, c'est faire mémoire de la mort du Christ, du dernier repas où il a dit « Prenez et mangez » en présentant le pain, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Prenez et buvez » en présentant la coupe de vin, « Ceci est mon sang. » C'est ça préfiguré, il annonçait sa mort prochaine et il demandait d'en faire mémoire et s'offrait aux hommes pour ça. Et c'est ce qu'on célèbre tous les dimanches. C'est ce qu'on appelle le repas eucharistique. Hein. Eucharistique, ça veut dire... En grec, Eucharisto, ça veut dire dire merci, rendre grâce. Donc ça veut dire on rend grâce de tout ce qu'on reçoit. Et à cette occasion-là, dans la prière dite eucharistique, on dit que le pain, c'est le fruit du travail des hommes. Et dans cette célébration, on remercie Dieu d'avoir cette nourriture. C'est un don de Dieu, tout ce qui nous arrive, etc. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais on est nourri aussi par la parole. Dans la célébration eucharistique, on dit qu'il y a deux tables. La table de la parole, c'est-à-dire la Bible. On a une première lecture qui est dans l'Ancien Testament. Et après, il y a les psaumes. Une deuxième lecture qui est souvent une lettre des apôtres, une épître. Et puis, après, il y a l'évangile qui est proclamé par le prêtre. Donc, chez les catholiques, on est nourri non seulement par la parole, mais par le pain et le vin, par le corps du Christ.
Oui, cru comprendre que pour les catholiques, ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est la présence réelle du Christ voilà. Dans l'hostie. Et qu'est-ce qu'il en est chez les protestants ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est
oui,
différent ?
Oui, absolument. Chez les protestants, d'abord, on appelle ça la Sainte Cène, mais chaque personne présente lors de la Sainte Cène boit la coupe, le sang du Christ, et prend du pain, le corps du Christ. Mais contrairement aux frères catholiques, la Sainte Cène n'est célébrée que une ou deux fois par mois. Pas chaque dimanche, parce que c'est pour montrer que c'est quand même un moment particulier, que ce n'est pas n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais la Sainte Cène chaque dimanche. Voilà, c'est vrai. En général, c'est une, au moins une fois par mois, peut-être deux. Voilà.
Alors que chez les catholiques, la Sainte Cène est célébrée tous les jours de la semaine. Vous pouvez aller célébrer la Sainte Cène à la messe.
Ah oui.
Il y a une messe. Enfin, alors, c'est vrai que c'est le dimanche. J'aime pas dire que c'est obligatoire. C'est quand même le jour de repos, on dit. Le jour de repos, le jour où le Seigneur s'est reposé, le septième jour, et où on est invité à nous poser, nous reposer et aller partager le. Mais tous les jours de l'année, pour l'Église catholique, il y a. Au travers de tous les pays, la messe est célébrée tous les jours.
Je voudrais juste rappeler un petit point d'histoire par rapport à la scène. Dans notre religion, les fêtes sont toujours fêtées à la maison sur le même schéma. On se lave les mains pour être pur, c'est systématique, on fait une bénédiction. Et après, que ce soit pour Shabbat, que ce soit pour n'importe quelle fête, on va faire la sanctification de la fête par le vin. Donc on va bénir par le vin, et après avoir bu et prié pour le vin, on va rompre le pain, sur lequel on fait également une bénédiction. On va terminer le repas de nouveau par une prière. Or, Jésus, Rabbi Jésus, a donc fêté le soir de Pâques, et à Pâques, nous mangeons du pain non levé, donc c'est le pain azim, qu'on va manger pendant les 8 jours de la fête, et donc Jésus a fait le kiddush, c'est-à-dire qu'il a sanctifié le vin, et après il a rompu la matzah, c'est-à-dire le pain azim qu'il a distribué comme, effectivement, le chef de famille distribue des morceaux de ce pain azim à chacun des convives à la table du seder, c'est-à-dire de la cérémonie familiale à la maison lors de la fête de Pâques. Donc Jésus effectivement a bu le vin et effectivement il a rompu la matzah qu'il a distribuée à ses ouailles.
Et d'ailleurs, le pain que l'on partage, c'est du pain non levé. Jésus était juif. Les enfants me disent, il était chrétien? Non, il était juif. Ah, bon, bah oui.
C'est vrai que dans la catéchèse, on explique aux enfants que la messe dérive du repas du céder des juifs, voilà. C'est clair.
Dans la préparation à la première communion aux enfants, non seulement on leur explique, mais ils le lisent, ils comprennent ce que c'est. On leur amène du pain azyme, etc.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la dimension du repas, ça veut dire que c'est pas simplement on reçoit le corps du Christ pour les chrétiens, mais aussi que ce corps partagé entre tous nous rend frères. Et je crois qu'il y a une dimension qui me paraît importante dans nos religions, c'est il y a la relation à Dieu que l'on célèbre par ses sacrements, mais il y a aussi le fait qu'il y ait les autres qui sont...
D'ailleurs, on fait église. On ne vient pas chercher son petit morceau de pain individuellement, si on vient individuellement, mais on fait église. On participe, on fait corps. Voilà, on fait corps.
Donc, le repas, c'est aussi un repas qui est partagé, un repas qui a du sens parce qu'il est partagé avec les autres.
Oui. Et moi, d'ailleurs, je regrette souvent que nous, on nous propose ce qu'on appelle des hosties. Et moi, je regrette vraiment, pour les enfants, pour une première fois, c'est bien le pain partagé. Et que chacun ait un morceau qui ne soit pas égal à l'autre. Le partage, ce n'est pas avoir la même part chacun, c'est avoir, faire prendre part à quelque chose. Et souvent, je dis, c'est dommage qu'avec les enfants, ça se faisait à un moment donné, il y avait des prêtres, après le Vatican II, qui prenaient une grosse hostie, qui la partageaient en petits morceaux et qui... Et les enfants participaient comme ça et ça avait plus de sens. Bon, maintenant, on en est revenu à la petite hostie pour des questions, je ne sais pas lesquelles. Parce que d'hygiène et puis aussi de crainte qu'il y ait des miettes qui tombent. Et puis, bon, il y a des choses comme ça.
Mais alors, par exemple, l'hostie, les catholiques, donc, est bénie.
Oui.
Je me souviens, lors d'une exposition à l'église de Mézières, une amie m'a dit, ah non, touche pas à ça, ces hosties, c'était une coupe avec des hosties, elles sont consacrées.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que le prêtre consacre un certain nombre d'hosties qui seront utilisées pour les messes à venir.
Elles sont consacrées à chaque messe, et ce qui reste est mis dans un tabernacle qui est la tente, qui est comme une tente, hein, parce que c'est le Christ qui est là et qui est...
D'accord, quand elles sont consacrées... On n'y touche pas.
Ah non.
Et alors, qui les fabrique, ces hosties?
En général, c'est des communautés religieuses qui les fabriquent.
Ah voilà, d'accord.
Et il y a des grosses hosties qui sont pour le prêtre. Et puis les fidèles, c'est des petites hosties.
Et pourquoi le prêtre a une plus grosse hostie?
Pour qu'elle se voit.
Ah.
Pour qu'elle se voit, parce que quand on la présente, une petite hostie comme ça...
D'accord.
Pour moi, on dit le pain, fruit du travail et du labeur des hommes, et le vin, etc. Ça veut dire qu'on remercie le Seigneur pour des choses qui sont notre quotidienneté. On se nourrit, voilà. Et non seulement ça, mais à la préparation de la communion avec les enfants, on leur fait parler de ce que c'est qu'une hostie. Qu'est-ce que c'est que ce pain? Alors, qui le fait? Alors, les gosses, ils disent, ça vient du blé. Alors, qui a fait pousser le blé? Et ils découvrent que ce petit morceau de pain, ça rassemble l'humanité entière. Celui qui fait pousser, celui qui construit la moissonneuse-batteuse, le transporteur... Et celui qui va chercher du sel, parce qu'il y a le sel aussi un peu, celui qui amène l'eau, et les enfants découvrent qu'en fin de compte, dans ce petit morceau de pain, tout le monde est rassemblé, quel qu'il soit. Pour moi, c'est fêter notre humanité, et c'est fêter aussi Jésus qui s'est fait homme parmi nous, qui a épousé notre humanité, c'est l'homme avec un grand H.
Pour être moderne, est-ce qu'il faut continuer à l'appeler l'homme ou l'humain?
Peut-être l'humain.
Alain, tu as peut-être des choses à dire par rapport à tout ce que tu as entendu.
Oui, j'entends. La nécessité de se nourrir, c'est pour ça que le moment du repas est essentiel. C'est quelque chose de vachement précieux partout. Souvent, c'est la famille, c'est les amis, c'est là où on vide son cœur. Enfin bon, c'est des échanges énormes. Et dans le temps, il y avait énormément de famines aussi. C'était des grosses, grosses catastrophes, puisqu'il y avait facilement des fois des centaines de personnes qui mouraient de faim. Donc, il a fallu préserver, faire en sorte que les gens arrivent à se nourrir. Donc, c'est posé des tas de problèmes sur la conservation des aliments, par exemple, sur la culture, sur l'élevage. Alors, les interdits, comme les vaches sacrées ou les porcs, ça peut être dû aussi, c'était dû, par exemple, aux maladies. Par exemple, le porc, à une époque, était porteur de beaucoup de maladies. Donc, le fait de porter des interdictions sur certains animaux pouvait se protéger. Par exemple, les crustacés, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des allergies avec les crustacés, par exemple. Donc, je pense que chaque communauté a trouvé des aliments qui n'étaient pas forcément bénéfiques à la population. Et puis, il y avait aussi, par exemple, le respect des animaux. Beaucoup de religions ont une difficulté à manger certains animaux, les chiens, les chats, même le lapin. Alors, il y a des pays où on mange les chiens, les chats. Il y a des pays où on mange les insectes. On dit qu'on arriverait peut-être à régler la faim dans le monde si tout le monde mangeait des insectes. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Ça, pour l'instant...
Est-ce que c'est véritablement
c'est
nourrissant?
C'est pas évident.
C'est plein de protéines.
Ah ouais.
Plein de protéines.
Ah oui, oui, oui.
Les sauterelles.
C'est vrai qu'il y en a des quantités gigantesques, mais maintenant ça s'élève très très bien. Mmh. Bon, ce sera peut-être une solution.
Donc, nous avons entendu comment on passe du repas à la célébration religieuse.
Et le jeûne?
Alors oui, le jeûne, c'est le temps avant les grandes fêtes, notamment avant Noël, pendant l'Avent, mais c'est surtout le temps du carême avant Pâques, qui est resté le temps du jeûne. Les jeûnes et abstinence du vendredi ont disparu dans les usages récents, mais dans certaines communautés chrétiennes, notamment orthodoxes, le jeûne est resté beaucoup plus présent. Ce sont les temps où peut-être chacun se remémore que tout le monde ne mange pas et qu'il y a l'importance de partager. Et puis aussi, prendre le temps de se tourner vers Dieu en faisant un peu le vide en soi.
Quand tu dis le temps de se tourner vers Dieu, ce serait intéressant, je crois que le pape François l'a proposé, qu'il n'y ait pas seulement des abstinences alimentaires, mais qu'on fasse le jeûne de certaines super activités, d'un super activisme qui fait qu'on ne prend pas le temps de se poser, et vraiment une intériorité bénéfique. Parce que c'est vrai qu'on mange de l'activité, on surmange, et c'est à qui fera le plus de plus. Et je pense qu'on oublie de se poser et d'être dans un temps de vacances où effectivement des fois on ressent une espèce de vide. En même temps, est-ce qu'on sait accueillir Dieu qui est dans le silence, on dit, hein.
Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission sur usage et interdits alimentaires, avec quelques débordements vers les questions qui nous préoccupent. Et chers auditeurs, nous vous retrouverons avec joie le mois prochain. Bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
S'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.